Le journal, c'est avec vous, Frédéric Barrère.
Bonjour à tous. Jour de vote historique en Allemagne. Les électeurs choisissent le successeur d'Angela Merkel après 16 années de pouvoir de la chancelière allemande. Des législatives très serrées et très incertaines. Nous serons à Berlin dans un instant. Première entorse au Brexit au Royaume-Uni. Face au manque de camionneurs pour transporter le carburant et les marchandises, Boris Johnson accorde des milliers de visas pour les travailleurs européens. La visite surprise de Valérie Pécresse à Pantin après l'évacuation des toxicomanes près du jardin d'Éole et la polémique autour de la construction d'un mur sous le périphérique, un mur symbole de la fracture du pays, selon Valérie Pécresse. Dans ce journal également, une marche blanche à Marseille en hommage à Ryan, 14 ans, la journée mondiale de la contraception et les femmes toujours plus méfiantes envers la pilule. Invité de ce journal, le docteur Geoffroy Robin, secrétaire général du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Et puis en sport, nous irons en Belgique où se déroulent les championnats du monde de cyclisme. La météo, plus aucun département en vigilance orange, mais le ciel reste menaçant. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
C'est donc le premier jour de l'après-Merkel en Allemagne. Élections législatives au coude à coude, sans doute les plus incertaines qu'a jamais connues le pays. Les deux partis qui ont dominé la vie politique dans le pays, les sociaux-démocrates du SPD et les chrétiens-démocrates de la CDU-CSU, se disputent aujourd'hui une victoire qui s'annonce étriquée. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h ce matin. On retrouve en direct de Berlin, devant un bureau de vote, l'un de nos envoyés spéciaux, Cyril Sauvageau. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Élections indécises, élections historique, on tourne la page de 16 années d'Angela Merkel.
Et quel que soit le résultat ce soir, ce sera quoi qu'il arrive la fin d'une époque pour l'Allemagne. Certains attendent et réclament ce changement, d'autres le redoutent. Dans ce bureau de vote du quartier de Wilmersdorf, à l'ouest de la capitale, nous avons croisé tout à l'heure Philippe, 20 ans. Il vote cette année pour la première fois.
Dans ma vie, je n'ai connu qu'Angela Merkel. Je ne dirais pas que tout est négatif avec la CDU, mais l'Allemagne a besoin d'un nouvel élan sur le climat, la justice sociale, mais aussi le système de santé. On a vu avec la pandémie que tout n'allait pas si bien.
Philippe a glissé dans l'urne un bulletin écologiste. Il espère une coalition réunissant les Verts et les sociaux-démocrates du SPD. D'autres continuent de faire confiance au parti d'Angela Merkel, la CDU. C'est le cas de Svenke, la soixantaine. Elle n'attend pas le grand soir, mais plutôt une forme de continuité.
Les choses vont-elles vraiment changer? Je n'en suis pas si sûre. Je suis surtout curieuse de voir si le style politique change. Ce que j'ai toujours apprécié chez Angela Merkel, c'est son calme, son pragmatisme. Le revers de la médaille, c'est peut-être un manque de dynamisme, une difficulté à trancher. Il faut voir ce qui se passera ensuite.
Tout dépendra du rapport de force à l'issue de ce scrutin qui s'annonce très serré. L'Allemagne pourrait s'acheminer vers une coalition à trois partis au lieu de deux, ce qui promet de très longues négociations avant de tourner vraiment la page des années Merkel.
Cyril Sauvageau en direct de Berlin, merci. Et parmi les candidats en lice, il y a donc Olaf Scholz, le représentant du SPD, parti rival d'Angela Merkel à 63 ans. Le ministre des Finances présenté comme la figure de la gauche tranquille allemande, devance d'une courte tête dans les sondages Armin Laschet, le dauphin désigné d'Angela Merkel, et la candidate écologiste Annalena Baerbock. En Allemagne, le profil de Olaf Scholz et son parcours font consensus, comme l'a constaté à Munich Sébastien Baer.
Vu de Bavière, fief du parti rival conservateur, la perspective d'une victoire d'Olaf Scholz est étonnamment bien perçue. Avec son profil modéré, ses expériences réussies à la mairie de Hambourg et au ministère des Finances, le candidat du SPD rassure Adèle qui travaille dans une brocante.
Il est sobre, il est un peu sec peut-être, mais comme je dis toujours, c'est quelqu'un qui est dans la Bundespolitik depuis longtemps, donc il fera son travail, je crois.
À entendre les Allemands qui déambulent le long de la Hauptstrasse, les chantiers qui attendent le futur chancelier sont titanesques. Pour Elias, 55 ans, Olaf Scholz peut être l'homme de la situation.
En Allemagne, il y a un manque de cadres, d'informaticiens, d'ingénieurs. Et il faut qu'ils investissent un peu plus d'argent. Il a beaucoup d'expérience dans ce domaine, surtout les finances, et je pense qu'il va faire du bon travail.
Mais à 63 ans, Olaf Scholz est jugé par certains trop âgé pour diriger l'Allemagne. Svea, 22 ans, rêvait de plus de social et d'environnement. Elle craint d'être déçue. déçus.
Comme Angela Merkel, Olaf Scholz est un technocrate. Sa politique sera la même que ces dernières années, sans risque réfléchi et calculé.
Olaf Scholz se pose d'ailleurs en héritier et cultive la ressemblance avec Angela Merkel, avec ce slogan sur ses affiches en forme de jeu de mots et qui proclame « Moi aussi, je peux devenir chancelière ». À Munich, Sébastien Baer, France Inter.
Et les premiers résultats de ces élections législatives en Allemagne seront connus ce soir à partir de 18h. Élections législatives également en Islande et les femmes seront majoritaires dans le nouveau Parlement, une première en Europe. Sur les 63 sièges, 33 seront donc occupés par des femmes. On votait également en Suisse sur la question du mariage pour tous. Les Suisses ont dit oui à 64% au mariage pour tous selon des résultats provisoires. Pénurie d'essence ou pas, il y a eu ce week-end un début de panique au Royaume-Uni. Les stations-service ont été prises d'assaut. Le Brexit est effectif depuis moins d'un an et le pays manque de camionneurs pour transporter le carburant. Boris Johnson a été contraint à une entorse sérieuse à la promesse faite lors de la sortie de l'Union européenne et le Royaume-Uni a décidé d'accorder des milliers de visas exceptionnels pour des travailleurs européens face aux grosses difficultés d'approvisionnement que rencontre le pays dans de nombreux secteurs. À Londres, les explications de Richard Place.
Il fallait réagir d'urgence. Les pompes à essence prises d'assaut par les automobilistes dans tout le pays étaient le signal d'alarme. Il n'y avait pas de pénurie, mais la panique l'a créée. Cette fois, le gouvernement a donc décidé d'une solution drastique. Plus de 10 000 travailleurs étrangers autorisés à venir pendant 3 mois pour sauver Noël. Parmi eux, 5 000 chauffeurs routiers pour améliorer les approvisionnements. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec un dé à coudre, dit la Chambre de commerce britannique. Sur la BBC, sa présidente, Ruby McGregor-Smith, demande aux autorités des mesures fortes et rapide.
C'est un bon début, mais je ne pense pas que ce soit suffisant. Nous souffrons de graves pénuries de travailleurs qualifiés, pas seulement des chauffeurs routiers, dans plein d'autres secteurs également. Nous allons détruire notre reprise économique si nous ne trouvons pas les bonnes solutions maintenant.
Ce sont 100 000 chauffeurs routiers qui font actuellement défaut au Royaume-Uni selon leur principal syndicat. Dans le même temps, Boris Johnson presse les entreprises de transport sur la question des salaires. Il veut des augmentations conséquentes pour attirer les Britanniques, car c'est le sens du Brexit qu'il a voulu, donner des emplois aux habitants et améliorer leurs revenus. Londres, Richard Place, France Inter.
France Inter, le journal de 13h. Frédéric Barrère.
Présidente de la région Île-de-France et candidate à la présidentielle à droite pour les Républicains, dont on sait depuis hier soir que le choix du candidat se fera en congrès. Valérie Pécresse s'est rendue ce matin en Pantin, en Seine-Saint-Denis. Valérie Pécresse a réagi à la polémique des toxicomanes déplacés des Jardins d'Éole dans le 18e à Paris, à la lisière du périphérique près de Pantin. Elle s'est rendue aussi près du mur construit par les autorités entre Paris et Pantin pour empêcher que les consommateurs de crack se rendent en Seine-Saint-Denis. Un mur, selon elle, symbole de la fracture du pays. Visite à Pantin de Valérie Pécresse avec deux casquettes, la région et la présidentielle. Anne Souhaitement.
À son arrivée sur place, devant une foule de caméras et micros, les critiques des riverains fusent.
Ah, la présidentielle, c'est des gens qui sont dans la misère, bravo hein.
Non madame, c'est pas ça. C'est en tant que présidente de région que je suis là.
Valérie Pécresse se défend de venir faire de la politique nationale.
Écoutez, ça n'a rien à voir avec le sujet, on en reparlera. On parlera de la politique un autre jour. Moi je voudrais rencontrer les amis.
Mais la candidate à la présidentielle en profite pour attaquer le gouvernement et notamment le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à l'origine de la construction du fameux mur, situé à quelques mètres, le mur de la honte, dit-on dans le quartier.
On est où là? À Berlin? La guerre froide recommence?
Un mur entre Paris et la Seine-Saint-Denis pour protéger les riverains des toxicomanes, totalement inadapté, selon Valérie Pécresse.
Ce mur, c'est aussi le symbole de l'échec d'un gouvernement?
C'est le symbole de la fracture de ce pays.
Il faut une solution qui soit sanitaire, et pas seulement sécuritaire, mais aussi sanitaire à ce problème. Il faut un lieu de désintoxication pour ces craqueurs.
Valérie Pécresse à l'écoute, mais surtout à l'offensive.
On fait comment maintenant?
Eh bien, on monte le son.
Valérie Pécresse qui monte le son, occupe le terrain et envoie un message à la droite. Pas question de laisser Xavier Bertrand faire seul la course en tête pour devenir le candidat du parti à la présidentielle. Il faudra compter avec elle.
La course à la présidentielle et aux législatives 2022, François Bayrou et Richard Ferrand souhaitent accélérer le projet de maison commune de la majorité, mais le président du Modem et le président de l'Assemblée nationale ont réagi à l'actualité politique du week-end, le congrès chez les Républicains et Éric Zemmour en embuscade pour la présidentielle. Sur place à Guidel, Maxence Lambrecq.
Oui, pour la Macronie, l'absence d'une primaire chez LR est une bonne nouvelle. Un recroquevillement de la droite, un congrès riquiqui, les centristes d'Hervé Morin, l'UDI de Jean-Christophe Lagarde ne pourront même pas participer au vote. François Bayrou s'en amuse.
On leur a dit, allez vous faire voir. Et un de leurs responsables a fait un tweet en disant, s'ils veulent participer, c'est très facile, ils adhèrent à LR.
Et pour lui, c'est la preuve que l'union de la droite et du centre n'est qu'un mythe, qu'il faut construire plus que jamais un bloc central démocrate, loin des excès d'Éric Zemmour, de son idée d'interdire des prénoms.
Il y a quelqu'un qui a fait ça au XXe siècle, c'est le maréchal Mobutu. Et il a dit, ça n'est pas possible qu'une femme africaine s'appelle Chantal ou Marie. Eh bien, je n'ai pas envie que la loi de Mobutu devienne, d'une manière ou d'une autre, une loi ou une proposition pour la France.
Cette sortie est bien la preuve qu'Éric Zemmour donne le ton de cette pré-campagne. Son débat très suivi jeudi avec Jean-Luc Mélenchon inquiète le patron du Modem.
On chante les louanges de la radicalité. Les radicalités, on sait comment ça finit. Dans quel massacre Mobutu, une fois qu'il a eu fait ça, un jour il a pendu 500 personnes dont les convictions religieuses ne lui plaisaient pas sur la place publique.
Pour contrer ces radicalités, il veut construire avec La République En Marche un seul et même mouvement. Le Premier ministre est en train d'appuyer cette idée à la tribune en ce moment. Guidel, Romain Lukiens, Maxence Lambrecq, France Inter.
Une marche blanche à Marseille ce matin en hommage à Ryan, 14 ans, tué le 18 août dernier dans la cité des Marronniers, dans les quartiers nord. Ryan, la plus jeune victime de la guerre des drogues qui endeuille Marseille depuis le début de l'année. Cette guerre a fait au moins 15 morts. Hommage, recueillement et colère ce matin sur place à Marseille. Paul Tillier, France Bleu Provence.
Une pluie battante pour accompagner ce minot de 14 ans, tué alors qu'il allait chercher un sandwich. Sur les t-shirts blancs et les maillots de l'Olympique de Marseille portés par ses proches, son nom au dos, Ryan, et un numéro, le 46, en hommage à son pilote de moto préféré, Valentino Rossi. Ryan, c'était un sacré pilote aussi, sourit ses amis. Alors, il n'avait pas encore sa moto, hein. Ce sont ses copains qui lui faisaient faire des tours en attendant qu'il puisse avoir la sienne. Alors ici, il y a du sourire, il y a de l'émotion, mais il y a aussi de la colère. Ryan n'est pas mort dans un règlement de compte, il est mort pour rien. Il ne traînait pas dans ces histoires, crie sa tante. La centaine de personnes présentes se sont arrêtées là où le petit est mort, l'entrée d'une résidence, bien loin des points de deal que l'on peut imaginer. Vous trouvez que ça ressemble à un quartier qui craint ça? Franchement, m'a dit une de ses camarades. Juste en face, un tag sur le mur en la mémoire de Ryan. L'État nous laisse tomber.
33 000 foyers sans électricité dans le Gard, la Drôme et l'Ardèche. Dans la Drôme, 20 communes sont également plongées dans le noir après les violents orages qui ont eu lieu la nuit dernière. Ce matin, Météo France a levé la vigilance orange pour ses 3 départements et celui de l'Hérault. On va s'intéresser maintenant à cette révolution qui a bénéficié aux femmes avec la pilule contraceptive et à l'occasion de la journée mondiale de la contraception. Une étude rendue publique hier par l'Agence nationale de sécurité du médicament montre un nouveau recul de la pilule. La désaffection à l'égard des pilules de troisième et quatrième génération se poursuit, ainsi que pour toutes les méthodes de contraception hormonale, cachées ou stérilées, au profit de méthodes ou de dispositifs non hormonales. L'accès à la contraception, un enjeu de société. Au début du mois, Olivier Véran, le ministre de la Santé, annonçait la gratuité de la contraception pour les femmes jusqu'à 25 ans à partir du 1er janvier prochain. Invité de ce journal, le docteur Geoffroy Robin, gynécologue, maître de conférence au CHU de Lille et secrétaire général du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Bonjour docteur Robin.
Bonjour, merci pour votre invitation.
On note donc en cette journée mondiale de la contraception une défiance toujours plus grande envers la pilule et notamment les pilules de troisième et quatrième génération. Comment l'expliquez-vous, docteur ?
Alors, cette journée, c'est en effet l'occasion de rappeler que la contraception, comme vous l'avez dit, ça a été, ça reste une avancée sociétale et que malheureusement, un certain nombre d'événements médiatiques ont contribué à inquiéter, parfois inutilement, les femmes sur la, ouvrez les guillemets, dangerosité de certaines pilules par rapport à d'autres, alors que ces risques sont tout à fait relatifs et dépendent le plus souvent plus des facteurs de risque des patientes elles-mêmes que de la pilule en soi en tant que médicament.
C'est-à-dire il faut une bonne information. Alors qu'est-ce que vous dites, docteur, quand une jeune fille, une jeune femme vient vous voir, quelle méthode vous lui conseillez, qu'est-ce que vous lui expliquez?
Alors, en fait, une consultation pour une première demande de contraception, c'est une consultation qui va durer quand même assez longtemps, parce que si on veut que la patiente adhère au projet contraceptif et qu'il y ait une bonne persistance de la contraception dans le temps, hein, ce qui va assurer l'efficacité sur le long terme de la méthode qui a été choisie, eh bien, il va falloir que nous, médecins et sages-femmes, en tant que professionnels de santé, on puisse expliquer chacune des méthodes qui existent aux patientes, évaluer pour chacune des méthodes ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque, à savoir est-ce qu'on peut ou pas donner telle ou telle méthode à cette patiente. Et ensuite, c'est la patiente qui doit choisir parmi les méthodes auxquelles elle est éligible, celle qui lui paraît finalement la plus satisfaisante, au moins dans un premier temps.
Le plus important, docteur Aubin, c'est donc de bien informer sur ce que vous dites, les bénéfices et aussi les risques.
Tout à fait. Ça, c'est essentiel. On a beaucoup parlé lors du scandale, entre guillemets, hein, sur les pilules dites de troisième et quatrième génération, des événements cardiovasculaires. L'expérience montre, notamment pour un certain nombre de gynécologues comme moi qui voient des patientes qui ont fait des accidents vasculaires sous contraception, que dans l'immense majorité des cas, le problème, c'était pas la contraception, mais les facteurs de risque qui préexistaient et des contre-indications à ces pilules, c'est-à-dire des patientes qui n'auraient pas dû les avoir. Et indépendamment de ça, si on avait prescrit les bonnes méthodes, c'est-à-dire des méthodes où il n'y avait pas les contre-indications, il n'y a pas d'augmentation de risque de telle ou telle pathologie dans ce contexte-là.
Alors, docteur Geoffroy Robin, il y a bien sûr l'annonce récemment, au début du mois, du ministre de la Santé, Olivier Véran, d'une contraception gratuite, hein, jusqu'à 25 ans. Est-ce que cela va concerner toutes les méthodes de contraception? Est-ce que vous le savez?
Alors, c'est une excellente question. En fait, aujourd'hui, on n'a pas de décret d'application très clair sur ce qui va commencer, justement, début janvier. Nous, au niveau du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, on s'est vraiment réjouis de cette annonce qui est aussi la preuve, c'est une preuve aussi de réassurance envers les femmes sur la contraception, sur le fait qu'on va améliorer l'accès à la contraception et qu'il y a un choix du gouvernement qui va dans ce sens. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que cette prise en charge à 100% par l'assurance maladie des méthodes de contraception va concerner seulement les méthodes qui étaient aujourd'hui déjà remboursées avec la part sécu, la part mutuelle, ou est-ce que ce sera un élargissement à toutes les méthodes de contraception, y compris celles qui ne sont pas remboursées, comme certaines pilules de troisième génération, des pilules aux œstrogènes naturels ou encore, par exemple, le patch ou l'anneau vaginal contraceptif.
La mesure devrait-elle s'appliquer, selon vous, aussi aux femmes de plus de 30 ans qui vont dans vos cabinets? Il n'y a pas que les femmes jusqu'à 25 ans, au-delà aussi, on a besoin de méthodes contraceptives.
Oui, alors, la question qui a été mise en avant par le gouvernement, c'est un problème peut-être de difficulté d'accès, de moyens financiers pour accéder à la contraception entre 15 et 25 ans et également dans cette tranche particulière des femmes de 18 à 25 ans qui pour beaucoup sont encore en fait étudiantes. En réalité, j'ai quand même l'impression que beaucoup de méthodes sont encore aujourd'hui remboursées, que beaucoup de femmes ont une mutuelle et donc peuvent accéder à beaucoup de moyens de contraception. Pour moi, le problème principal aujourd'hui, et c'est pour ça que cette journée de la contraception est importante, c'est qu'il faut vraiment rassurer les femmes sur l'absence ou la très faible dangerosité de l'ensemble des méthodes de contraception à partir du moment où il y a eu une consultation médicale bien faite pour aider à choisir la bonne méthode.
Alors il nous reste très peu de temps, docteur Robin. Où en est-on de la contraception masculine? La contraception n'est pas seulement une affaire de femmes. Où est-ce qu'on en est là?
Tout à fait, exactement. Ça c'est très important. Aujourd'hui c'est l'occasion de rappeler aux femmes mais aussi aux hommes que la contraception est un droit fondamental et que effectivement de plus en plus d'enquêtes montrent notamment avec l'évolution de la société que l'homme veut prendre part aux projets contraceptifs au sein des couples pour prévenir les grossesses non prévues. Et c'est vrai que aujourd'hui il y a une recherche médicale très active sur de nouvelles méthodes de contraception, peut-être même des méthodes hormonales chez l'homme qui permettraient justement d'assurer une contraception réversible. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en dehors du préservatif masculin qui n'est pas forcément, qui n'a pas toujours bonne presse, ou de la vasectomie qui est une méthode de contraception définitive, il n'y a pas d'autres alternatives pour les hommes, à part des contraceptions thermiques, notamment des sous-vêtements qui sont utilisés pour réchauffer les testicules et avoir une action contraceptive, comme c'est proposé par exemple au CHU de Toulouse.
Merci.
Donc
merci,
il y a des choses qui avancent et je pense qu'on va un jour pouvoir impliquer plus les hommes dans le projet contraceptif des couples.
Merci beaucoup, docteur Geoffrey Robin, secrétaire général du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Merci à vous. Autre événement à caractère mondial, mais en sport cette fois, avec les championnats du monde en cyclisme sur les routes pavées des Flandres en Belgique. Julian Alaphilippe remet son titre de champion du monde en jeu entre Anvers et Louvain. Le grand favori, c'est le Belge Wout van Aert, l'enfant du pays soutenu par toute la Belgique. Bonjour Fanny Le Chevestrier.
Bonjour Frédéric.
En direct des championnats du monde, et le public est nombreux.
Ah oui, vous savez, on dit souvent qu'ici en Belgique, hein, le cyclisme est une religion. Eh bien, aujourd'hui, c'est la grande messe du vélo. C'est tout un peuple, tout simplement, qui est sorti au bord de la route, drapeau et perruque aux couleurs de la nation, et qui attend son dieu. Wout van Aert, le grand favori de cette course, le meilleur coureur de l'année avec 13 victoires cette saison, celui que certains qualifient parfois de nouveau cannibale en référence bien sûr à Eddy Merckx. Alors van Aert va-t-il réussir sa mission? Attention, attention, les Français ne rendront pas la précieuse relique arc-en-ciel sans se défendre. Ce sont eux d'ailleurs qui ont lancé les offensives, grand animateur de ce début de course avec une attaque d'Anthony Turgis puis une autre de Benoît Cosnefroy et Arnaud Démare dans une échappée d'une quinzaine de coureurs actuellement où il y a vraiment du beau monde. Remco Evenepoel ou encore Primoz Roglic échappé qui compte actuellement une quarantaine de secondes d'avance sur le peloton dans lequel figure toujours bien placé Wout van Aert mais aussi Julian Alaphilippe. Il reste encore 152 km à parcourir.
Merci Fanny Le Chevestrier sur les championnats du monde en Belgique. Aujourd'hui, la météo pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Jean-Michel Golinski.
Le gros des orages du sud-est et du centre-est file maintenant vers la Suisse et l'Italie, avec comme conséquence pour l'après-midi l'installation d'une ambiance quand même plus calme sur ces régions. Témoin, il n'y a plus aucun département en vigilance orange. Pour autant, l'atmosphère conserve une certaine dose d'instabilité sur l'Hexagone, pouvant se traduire cet après-midi par le déclenchement d'averses, voire même d'un coup de tonnerre, notamment au nord de la Loire et de l'est du Rhône à la Corse, tandis qu'entre les Pyrénées et le Massif central, les éclaircies seront généralement plus durables. Les températures, malgré une petite baisse par rapport à hier, restent confortables pour la saison, entre 20 degrés près de la Manche et 28 sur le bassin méditerranéen et de l'ordre de 24 degrés de moyenne sur les régions de l'intérieur. Demain, une perturbation atlantique va traverser le pays vers l'est en s'accompagnant de pas mal de vent dans la moitié nord du pays, entre 90 sur les côtes et 70 dans l'intérieur.